Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Annie Genevard, députée LR du Doubs, vice-présidente déléguée des Républicains et vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Bonjour Annie Genevard.
Bonjour.
Qui sera vraiment le candidat des Républicains? On va parler du feuilleton du moment dans votre famille, mais avant cela quand même, le rapport très attendu ce matin sur le scandale des abus sexuels dans l'Église. On parle de 3000 prêtres fautifs, de plusieurs milliers de victimes depuis les années 50. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce rapport et des suites?
Ce rapport est déjà en soi une grande avancée. Il montre que l'épiscopat français a eu la volonté de faire toute la lumière. C'est un cheminement de vérité très difficile, très douloureux pour l'Église, mais qui est absolument nécessaire pour l'Église elle-même et pour les victimes surtout, qui ont besoin, évidemment, que le drame qu'elles ont vécu soit reconnu. Et surtout que demain, cela ne se reproduise plus.
Oui. Vous, en tant qu'élu local, vous aviez connaissance parfois d'affaires comme ça qui avaient tendance à être étouffées. Il y avait une omerta.
Non, jamais. Je n'ai jamais, là où je vis, entendu parler particulièrement de faits qui se seraient produits en proximité. Mais on sait désormais ce qui s'est passé. Et surtout, il y a eu une enquête très approfondie, une invitation aux victimes de témoigner, de parler, un dénombrement des auteurs de ces faits. C'est un travail extrêmement poussé qui a été fait, qu'aucune autre communauté n'a fait, parce que on sait hélas que ce crime probablement le plus affreux de la pédophilie, il touche le cercle familial, il touche le domaine du sport, il touche de nombreux domaines, mais l'Église a pris ce problème vraiment de front, de face, et
après l'avoir éliminé, ou
bien
en
sûr,
tout cas
l'avoir tué trop longtemps.
Voilà. Est-ce que l'Église va en sortir fragilisée?
Il est clair que cela probablement passera par une phase d'altération de son image, même si, il faut le dire, l'immense majorité des prêtres ne s'est pas rendu coupable, parce que le rapport Sauvé donne des chiffres. Ça concerne 3% des prêtres. Évidemment, c'est énorme et c'est beaucoup trop, et les victimes se comptent par milliers, c'est abominable. Mais je veux dire, l'immense majorité des prêtres, la quasi-totalité des prêtres, ne s'est jamais rendu coupable de tels agissements. Donc je pense que ça aura une sur l'image de l'Église, mais que c'est peut-être le début d'une restauration de son image, et je veux le croire.
Oui, c'est ça peut être un rebond par la suite, quoi.
Je l'espère, parce que ce travail de vérité a été nécessaire, mais évidemment a demandé du courage.
Bon, Annie Genevard, travail de vérité aussi, revenons aux affaires des LR. Bureau politique crucial demain, Xavier Bertrand semble refuser le processus du congrès début décembre. Le mieux placé dans les sondages, donc il invite les autres candidats à se ranger derrière lui. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Moi je réponds que nos candidats ont un devoir absolu, c'est celui de se parler, de se voir, de s'entendre. Quelle que soit la forme que prendront les choses, ça c'est indispensable. Nous ne devons avoir qu'un seul candidat et que tout le monde se range derrière lui. Alors, les Républicains, les adhérents, les militants ont exprimé un choix, que le choix du candidat à la présidentielle se fasse par un congrès. Ce choix doit être respecté. Moi, j'espère vraiment que Xavier Bertrand entendra cette volonté militante, et je crois qu'il n'a rien à y perdre, à se plier à l'exercice commun.
Et si, parce que Xavier Bertrand dit, à partir du moment où lui n'est pas adhérent aux Républicains, il dit que ce sont les militants qui vont voter, et les militants sont plus portés vers d'autres personnalités, mais qui ne ressortent pas, je pense à Michel Barnier, par exemple, mais qui ne ressortent pas forcément dans les sondages, dans les intentions de vote.
Moi, je crois que les militants sont comme tous les Français. Tous les Français qui ont envie du changement, qui ont envie d'une alternative à Emmanuel Macron ou à Marine Le Pen. Et que, par conséquent, cette sagesse-là, ils la partagent, et qu'ils porteront leur suffrage sur celui qui a les meilleures chances de l'emporter. Donc, voilà.
Donc, ça veut dire qu'on va aller jusqu'au bout du processus. Pour vous, il n'est pas question de transiger avant, même si les uns et les autres se parlent.
Moi, je pense que si les uns et les autres voulaient accélérer le processus, il ne tient qu'à eux de s'entendre avant. Je veux dire, s'il se mettait d'accord avant le Congrès...
Oui, mais il faut quelqu'un qui siffle la fin de la partie, alors, dans ces conditions.
Mais... j'en appelle au sens de la responsabilité de chacun. De toute façon, il faut... Les Républicains ont deux rassemblements à conduire. Le rassemblement de leurs candidats et le rassemblement des électeurs de la droite. Ce rassemblement, il prend un peu de temps. Si vous voulez forcer le tempo... Si vous voulez imposer une décision qui n'est pas consentie, eh bien, vous ruinez les chances du rassemblement. Et on a connu. Hein, on a connu ça avec la présidentielle, la primaire, puis la présidentielle de 2017. On a bien vu que le rassemblement ne s'était pas opéré entre les équipes. Donc, c'est ce temps nécessaire au vrai rassemblement profond, authentique, qui permet la victoire. C'est cette chance-là que nous voulons donner à notre famille politique. Et ça, ça prend un petit peu de temps.
Oui, mais Xavier Bertrand doit donc se plier au processus.
Sa parole lui appartient. Moi, je ne suis pas le porte-parole de Xavier Bertrand. Donc, on verra bien quelle sera sa décision. Mais je crois que le sens de la responsabilité des uns et des autres impose, mais vraiment impérativement, qu'ils se mettent d'accord.
Oui, donc, et ils doivent se parler. Mais alors, comment
Même si le congrès a lieu, ils doivent se parler, se voir régulièrement, parce que si congrès il y a au lendemain du congrès, ils devront être comme les doigts de la main.
Oui, bon, donc, alors vous les invitez à se rencontrer. Est-ce que ça doit se faire sous votre égide, l'égide des Républicains ou pas alors?
Écoutez, chacun est suffisamment adulte pour pouvoir se voir sans avoir besoin de la tutelle absolue du parti. Bien sûr, le parti est là pour être le rassembleur, le facilitateur, et s'il faut le faire, on le fait. C'est d'ailleurs ce que fait Christian Jacob depuis des mois. Ouais. Donc, voilà.
Mais alors, si je vous comprends bien, Annie Genevard, ils doivent se parler, se mettre d'accord, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir un accord avant le congrès qui aura lieu en décembre. Congrès n'est pas forcément indispensable. Alors.
Je dis que toutes les options sont ouvertes. Soit ils peuvent s'entendre sans la consultation du Congrès, soit ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur un seul d'entre eux, et dans ce cas-là, c'est le Congrès, et j'invite chacun à y participer.
Qu'est-ce qui peut faire la différence alors d'ici au Congrès lors de leur rencontre, qu'ils se mettent d'accord? Mais c'est quoi? C'est à partir de quoi? Parce que chacun défend évidemment sa position, quoi.
Bon, alors évidemment, il y a les sondages qui se succèdent.
Ça, vous regardez
chaque semaine? Bah, évidemment, chacun regarde les sondages, vous les regardez attentivement, nous les regardons également, et le dernier en date est tout à fait intéressant. On voit bien que le paysage politique est quand même très mobile. Ça peut amener à bouger les lignes, peut-être, je n'en sais rien.
Dans le dernier, ce matin, on voit que Xavier Bertrand fait mieux que les autres candidats, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Michel Barnier, et les autres. Dans ces conditions, c'est lui, si jamais ça se confirme, c'est lui qui devrait être le candidat, alors.
Écoutez, c'est leur dialogue entre eux qui permettra de le dire. C'est pour ça que on ne peut pas parler à leur place. La seule chose qu'on peut exiger d'eux, c'est qu'ils s'entendent. Parce que rien ne serait plus préjudiciable et ça ruinerait nos chances de victoire s'ils montraient le moindre signe d'hostilité les uns avec les autres. Ouais. Donc j'invite chacun à la raison, au sens des responsabilités, qu'ils se voient, qu'ils se parlent, qu'ils s'entendent, et puis s'il le faut, le Congrès sera le juge de paix.
Oui. Est-ce que vous allez évoquer aussi demain en bureau politique le cas Éric Zemmour?
Or, je pense que il est possible que nous en parlions, il est même à peu près certain que nous en parlerons, compte tenu de son irruption dans le paysage politique et de son positionnement assez haut dans les sondages. Hein. Bon, Zemmour dresse un constat que nous pouvons partager sur la fracturation de la France, sur la perte de souveraineté de notre pays, sur l'immigration incontrôlée, sur la menace de l'islam radical. Ce constat-là, nous le faisons, nous ne sommes pas le seul, il le fait également. Maintenant, passer du constat aux propositions.
Oui, ben pourquoi il est audible, lui, et ça se ressent dans les intentions de vote, et moins chez vos candidats?
Mais écoutez, je crois que il incarne une forme de parler vrai, qui peut plaire sur l'instant, mais qui ne peut pas donner le change au sérieux des propositions. C'est un polémiste, c'est un provocateur, c'est quelque chose qui peut plaire à l'opinion publique à un moment donné, mais nous nous parions sur le sérieux des propositions, la crédibilité d'un projet qui peut restaurer notre pays. Bon. Donc voilà, il faut, quand on fait de la politique, faut aller sur le concret, les propositions,
la crédibilité. Mais il a des propositions quand même, hein. Il l'a évoqué lors des différentes interviews, on verra ensuite dans son programme. Mais est-ce qu'il est trop tard pour vous de récolter quand même les 30% d'intention de vote d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, quand on cumule en fait les sondages, 30% sans ces intentions de vote, sans ces électeurs, donc vous ne gagnerez jamais.
Ben, ça montre bien que depuis 10 ans, où la situation s'est considérablement aggravée en matière d'autorité publique, en matière de délitement de la société, et là on peut constater que ni Emmanuel Macron, ni François Hollande, son prédécesseur, n'ont rien fait pour entraver ce processus, eh bien le résultat, il est là, c'est que les Français aujourd'hui disent clairement qu'ils demandent à leurs dirigeants d'agir, d'entraver ce mouvement mortifère pour la France. Donc après, ça se jouera sur la crédibilité. Au fond, moi je suis convaincue que les Français veulent faire entendre leur voix, leur protestation, mais au moment de voter, ils examineront les projets et les propositions.
Alors en attendant, c'est Emmanuel Macron qui fait des propositions. Chaque jour, quasiment, il est sur le terrain et il s'adresse aux uns et aux autres, que ce soit sur le pouvoir d'achat, sur tous les sujets, quoi. Mmh. Est-ce qu'il n'est pas en train de vous couper l'herbe sous le pied, justement, de vos propositions ?
Écoutez, bon, d'abord, on est à 6 mois de l'élection, donc on voit bien que là, on est entré dans une séquence préélectorale, électorale pour Emmanuel Macron, ce qui est un peu choquant, parce que utiliser les moyens de l'État à coup de chèque à telle ou telle catégorie pour faire campagne, c'est choquant, surtout quand on le fait à crédit. Prenons l'exemple du pouvoir d'achat. Donc c'est la séquence du moment. Emmanuel Macron a restauré le pouvoir d'achat des Français. Moi, je répondrai augmentation de la CSG des retraités. Je répondrai prolongation de la CRDS, la cotisation de redressement des comptes de la sécurité sociale. Je répondrai facture énergétique. Si au lieu de mettre à mal la filière nucléaire, il avait au contraire vu que cette énergie décarbonée et peu chère devait être privilégié, on n'en serait pas là.
Il va faire des propositions,
mais qui sont en contradiction avec la politique qu'il a menée. Donc moi, je vois bien qu'il y a une espèce d'affolement les 6 derniers mois du quinquennat pour dire et faire ce qu'on n'a pas fait avant, mais tout ça n'est pas quand même très convaincant.
Merci Annie Genevard, donc vice-présidente de l'Assemblée nationale et vice-présidente déléguée aussi des Républicains, d'avoir été ce matin l'invité de Sud Radio.
Restez avec nous un instant, on fera la revue de presse. Il est 8h31.